Oui, je voudrais, avant de partager la parole du Seigneur, partager un témoignage sur ces derniers jours. Nous avons eu jeudi la célébration du mariage et de la bénédiction de l'union de Marie-Océane et de Kevin. Et ça a été vraiment un temps très chouette à vivre. Je vais dire ça comme ça. La célébration s'est bien déroulée en plein air, sous le soleil, avec l'ombre des pins à l'extérieur du moulin de Saint-Yves. Et ma question, c'est quand on est dans une célébration de mariage, combien y a-t-il de chrétiens, combien y a-t-il peut-être de non-croyants, et comment équilibrer le message que l'on peut apporter à cette occasion-là pour que à la fois les chrétiens y trouvent je dirais quelque chose qui nourrisse leur foi, qui les encourage, que les mariés qui tenaient à avoir une bénédiction de Dieu sur leur union, parce que tous les deux sont vraiment au Seigneur, et puis faire en sorte que les gens qui sont non-croyants, c'était le souci de l'apôtre Paul, hein, je vous le rappelle, dans l'exercice des dons spirituels dans l'Église, bah, ne soient pas surpris, dérangés, choqués, dans un moment qui se veut, je dirais, un moment de joie et de célébration ensemble. Et puis, on avait construit la célébration avec Marie-Océane et Kevin, et il y a eu vraiment une participation, j'étais étonné, même dans les chants, donc chrétiens, les lectures de la Bible, mais les chants chrétiens, un grand nombre qui participaient. Et quand j'étais faire un petit sondage après, je dis, mais vous connaissiez les chants? Et il y avait un jeune homme qui m'a dit, non, je ne connaissais pas les chants, mais j'ai chanté parce que c'était tellement beau. Et je me dis, chanter la gloire de Dieu quand on n'est pas croyant, mais être touché par cela. Et puis, on a eu ensuite vin d'honneur et puis un excellent repas, un des meilleurs repas qu'on ait fait, disait Francine, pour un mariage à la fois plein de finesse et puis agréable. Et puis, il y a toujours, vous savez, cette inquiétude quand on est invité à un mariage, c'est dire avec qui on va être à table. Et puis, connaissant un peu les habitudes, sachant mon âge, ou en prenant conscience de mon âge, je me suis dit, je vais me retrouver avec bon, des personnes âgées qui vont avoir un peu le même profil que moi, etc. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On s'est retrouvé à une table à peu près de 10 personnes. On était 4 personnes matures, on va dire ça comme ça. Et puis, on avait 6 jeunes à notre table, 6 jeunes qui faisaient partie de l'entourage de Marie-Océane. Et ça nous a fait plaisir. On s'est dit, tiens, on n'est pas entre personnes anciennes. Et puis, il se trouve que ces personnes, ces jeunes, c'était des jeunes qui vivaient en communauté ensemble dans la région parisienne, parce qu'en fait, un jour, un homme qui avait perdu sa femme, qui se retrouvait seul, avait une très très grande maison, s'est dit, mais en tant que chrétien, comment est-ce que je peux garder vide un espace comme cela? Et il a décidé de louer toute la grande partie de sa maison, de sa propriété, à des jeunes chrétiens qui venaient faire leurs études. Et donc, des jeunes de tous les horizons et de tous les pays sont venus dans cette maison-là pour faire leurs études, mais y vivre leur foi aussi. Et c'est comme ça que Marie-Océane, qui partait faire, elle faisait sa maîtrise, je crois, ou son doctorat au niveau du droit, atterrit dans un temps compliqué, difficile pour elle, où aussi sa relation avec Dieu était un petit peu mise à distance. Et puis, dans cette communauté, elle a été véritablement encouragée, aidée, soutenue par les autres jeunes. Et c'est ce qui fait qu'elle est aujourd'hui dans une continuité de vie comme cela, où le Seigneur la conduit, la dirige, où elle est vraiment pleine de foi et un vrai témoin pour Christ. Et on avait ces 6 jeunes à notre table. Et du coup, on a commencé à parler, à discuter. Et un de ces jeunes était un des jeunes qui, au moment du vin d'honneur, s'est retrouvé à côté de moi, dans un coin, un petit peu à l'écart. Il ne connaissait pas trop de monde non plus, puis on a commencé à parler ensemble. C'est le premier vin d'honneur au cours d'un mariage où j'ai pu dialoguer, échanger, encourager un jeune Colombien par rapport à son appel vis-à-vis de Dieu. Et il a posé cette question-là, on était tous les deux, après Francine nous a rejoints, il a dit, mais expliquez-moi comment vous avez entendu l'appel de Dieu dans votre vie, parce que moi, je suis complètement perdu. Il s'appelle Edwin, vous pouvez prier pour lui. Et on a eu un entretien, un échange pendant une demi-heure comme ça sur comment travailler l'écoute de Dieu pour découvrir son appel. Ça vous concerne, non? L'appel de Dieu, non? C'est quelque chose qui vous concerne? Lui, ça le concernait. Et j'ai vu qu'il avait mais une soif, une envie. Il était à l'écoute, il posait des questions. Puis après, on est allé au repas et il était à notre table. Et puis tous les autres, j'ai découvert que c'était des jeunes chrétiens qui vivaient leur foi. Et on a parlé pendant le repas de la relation avec Dieu, de comment vivre sa foi, les expériences qu'il faisait. C'était extraordinaire. On est rentré à 1h du matin, un peu fatigué, mais tellement ravi de cette rencontre. Et puis, vendredi soir, dans la même journée, c'est-à-dire qu'on est rentré et vendredi soir, on a accueilli Pierre et Touchani, qui nous font le privilège d'être accompagnés, de vouloir être accompagnés dans la préparation au mariage. On avait un week-end, 4 jours sur mariage, hein, et alliance surtout. Et hier après-midi, après plusieurs temps, on a pu échanger, on a dit on va aller voir quand même la mer pour leur prouver que l'Orient était à côté de la mer, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait convaincus. Hein. Et puis on est allé manger une crêpe, évidemment, comme tout breton qui se respecte. Et puis en sortant de la crêperie de Lomé, on dit on va faire le tour vers Carpaples, marcher dans l'eau, c'était leur rêve. Les Parisiens ont des rêves étranges, hein, marcher dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils veulent se baigner, mais sans maillot de bain. Je dis, ben, gardez vos vêtements, on va marcher dans l'eau. Et puis, on allait vers la crique, comme ça, en sortant de la crêperie, sur qui on tombe, tout ce groupe de jeunes chrétiens qui avaient passé leur soirée avec nous et qui étaient là, qui avaient fait des promenades. Etc. Et on a pu, à ce moment-là, j'ai pu faire quelque chose qui me tenait très à cœur. Je les ai remerciés. Je les ai remerciés en leur disant, si vous saviez le bien que vous nous avez fait, l'encouragement que vous avez donné par votre témoignage. Et par... Alors, ils étaient étonnés, ils disaient, ah bon, ils disaient, mais nous, on a tellement reçu aussi. Hein. Mais nous, on est rentrés, on s'est dit, mais wow, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme bien. Et c'était réjouissant de voir des jeunes chrétiens qui étaient dynamiques. Il y en a un qui part faire sa formation au Japon, l'autre qui est en train de chercher du travail dans un autre endroit. Ils sont tous en train de chercher quelle est la voie que Dieu veut pour eux. Et je voyais Aurélie qui murmurait avec ses lèvres quand j'ai posé la question, est-ce que vous êtes concerné par l'appel de Dieu? Et puis j'ai vu Aurélie qui dit, mais on est tous concernés. Oui Aurélie, tu as raison, on est tous concernés par l'appel de Dieu, jeunes et vieux, hommes et femmes. Alors voilà, c'était une expérience de mariage qui nous a fait un bien fou. Et je voulais le partager avec vous. Voilà le texte que j'ai choisi ce matin. Et je ne déclenche mon chronomètre que maintenant. Enfin, normalement. Ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant ne compte pas dans le temps de la prédication. J'aimerais lire avec vous le texte qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1, et les 9 premiers versets. Vous allez les voir s'afficher. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi. Aie bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà un texte qui est un texte, alors on va dire, classique d'encouragement. Qui n'a pas reçu ce verset dans, si vous êtes des chrétiens ancrés dans le Seigneur depuis un certain nombre d'années, ce verset qui dit « Fortifie-toi et prends courage dans les moments de découragement ». Mais j'ai relu ce texte-là dans la version d'André Choraki, que j'aime bien, un spécialiste de l'hébreu. Et lui, il dit les mêmes pensées, mais avec quelques nuances. Et je vais vous le lire quand même, même si ça fait une double lecture. Et c'est après la mort de Moshe, le serviteur de Yahvé Adonai, que Yahvé Adonai dit à Yehoshua, fils de Noun, l'officiant de Moshe, pour dire « Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers la terre que moi-même je donne aux fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moshe, depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, toute la terre des Hittim jusqu'à la grande mer, au déclin du soleil, ce sera votre frontière. Nul ne se postera face à toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et ferme. Oui, toi, tu feras posséder à ce peuple la terre que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois très fort et ferme pour garder et faire toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonnée. Ne t'écarte d'elle ni à droite ni à gauche, afin que tu sois perspicace partout où tu iras. Cet acte de la Torah ne se retirera pas de ta bouche. Murmure-le jour et nuit, pour garder et faire tout ce qui est écrit, oui, alors triomphera en ta route, alors tu seras perspicace, ne t'ai-je pas ordonné, sois fort et ferme, tu ne trembleras pas, tu ne t'effareras pas, oui, Yahvé Adonai, ton Elohim, sera avec toi partout où tu iras. Il y a des nuances dans ce texte d'André Chouaraki qui sont extrêmement intéressantes. On y reviendra. L'accès à la terre promise commence par ces mots après la mort de Moïse. Ce texte que nous lisons, nous le lisons souvent comme un texte historique. Or, dans la Bible hébraïque, Josué est quasiment considéré comme un livre prophétique, comme d'ailleurs le livre des Chroniques, etc. Un livre prophétique. Nous, on dit non, c'est pas prophétique, Ésaïe, Jérémie, etc. Mais en quoi ce livre pourrait-il être prophétique? Et dans l'Écriture, en fait, ce passage-là peut avoir une lecture historique, mais elle peut aussi avoir une lecture messianique. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas perçu en lisant ce texte-là, une lecture qui soit messianique. Et beaucoup de juifs messianiques, en lisant ce texte de Josué, se disent « Mais c'est aussi une lecture que nous faisons concernant le Messie. » Après la mort de Moïse, et il est expliqué qu'est-ce qui se passe après la mort de Moïse. Pour des juifs messianiques, ça peut être aussi lu après la mort de Moïse, qui est un modèle de Christ, voici ce qui va se passer. Vous allez rentrer dans une terre différente, vous allez gagner du terrain, et on peut faire cette lecture de manière messianique. Et c'est ce que je vous propose ce matin de faire, afin que vous ne soyez pas ce matin en train de vous dire, et je lis un peu certaines pensées, oh, encore un cours de catéchèse sur l'histoire d'Israël. Mais si on fait une lecture messianique de ce texte-là, alors nous avons des leçons à prendre sur ce que Dieu dit à Josué, et donc ce que Dieu veut nous dire à nous, une fois que nous sommes sortis, j'ai entendu une prière qui disait, nous sommes sortis de l'esclavage de l'Égypte et nous sommes maintenant face à la terre promise. Oui, nous sommes sauvés. Le Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'accès à la terre promise commence par la mort. Il y a comme une démarche spirituelle logique. C'est dans ce texte, après la mort de Moïse. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Un petit peu comme les disciples qui, une fois que Jésus est mort, et certains ont dit qu'il était ressuscité, mais une fois qu'il est mort, comme les disciples, on fait quoi maintenant? Ben, on retourne à nos affaires, on redescend la route qui quitte Jérusalem, etc. Et puis on va essayer de survivre. Et il y a parfois des chrétiens qui sont un petit peu dans cette attitude-là et ce comportement-là. Sauvés, oui, mais maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le retour du Seigneur. Mais en fait, l'accès à la terre promise, pour le peuple juif, commence par la mort de Moïse. L'accès à notre terre promise commence aussi par la mort de Jésus. Il y a une démarche spirituelle dans ce texte-là et des leçons spirituelles à en prendre. L'évangile de Jean dit, en vérité, je vous le dis, au chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et on peut voir, en fait, en Moïse, une figure de Christ pour passer de l'autre côté, pour avoir accès à la vie nouvelle pour le peuple d'Israël, il faut qu'il meure et que le peuple entre dans le pays de la promesse. C'est exactement ce qui se passe avec notre foi dans le Christ qui est mort et ressuscité. Il fallait qu'il meure pour que nous accédions à notre terre promise. Il a accompli son œuvre. Il vous a sauvés. Mais c'est à vous maintenant d'entrer et de vous approprier la terre promise. Il est possible de rester dans le désert aux côtés du corps de Moïse. Il est aussi possible de profiter de ce pourquoi il est venu, il a été envoyé, et de l'œuvre qu'il a accomplie pour amener le peuple d'Israël devant à nouveau le Jourdain et ce pays promis. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus pour nous. Et nous pouvons nous identifier. Ça a très peu d'intérêt de lire uniquement l'Ancien Testament comme un livre historique si on ne voit pas comment ce modèle-là, spirituellement, peut nous parler dans notre marche personnelle. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Le peuple d'Israël était perdu dans le désert, Moïse l'a conduit jusqu'aux portes du pays promis. Christ fait exactement la même chose avec moi. Et avec toi, je l'espère. Dans le Deutéronome 32-49, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont d'Emaud, est-il dit par Dieu à Moïse, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur cette montagne ou tu monteras. » Moi, j'imagine la tête de Moïse quand Dieu lui a parlé. Je ne veux pas être virulent, mais enfin, Seigneur, ça fait 40 ans ou 50 ans que je travaille pour toi. J'ai annoncé ta nouvelle, j'ai amené le pays devant le peuple devant le pays promis, et puis ils n'ont pas voulu rentrer. On a tourné 40 ans dans le désert. J'ai dû me farcir leurs difficultés, leur opposition, leur récrimination. Et au moment où on revient devant, moi je dois mourir et je ne rentre pas dedans. Et je me disais, mais Christ, la croix, a dû lui aussi, du haut de la croix, contempler ce qu'il a rendu possible aux hommes. Et pas simplement au peuple d'Israël. Du haut de la croix et du mont Golgotha, on est semblable à Moïse mourant sur le mont Nebo. Christ a contemplé l'œuvre qu'il accomplissait pour les hommes. Je dirais que Christ, homme, et Christ, Dieu, étaient sur la croix suspendus et ils regardaient dans la souffrance les portes qu'il entrouvrait pour l'éternité, pour tous les hommes de la terre et de toutes les générations. Et c'est ce qu'il a vu. Alors bien sûr, quand il a dit ces mots, tout est accompli, certainement, il y avait de la souffrance de quelqu'un qui se livre jusqu'au bout. Mais dans son cœur de Dieu, dans son cœur d'homme, il y avait aussi toutes les perspectives qu'il avait pour moi, pour vous, au travers de ce salut. Dieu insiste auprès de Josué et il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, il s'adresse à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. Dieu insiste auprès de Josué. Et on trouve dans l'Ancien Testament, notamment, des paroles de répétition où Dieu parle au peuple pour lui dire « Voilà ce que j'ai fait maintenant pour toi. » Il y a un petit mot qui, dans ce texte, au verset 2, qui me tient à cœur. C'est le mot « maintenant ». Maintenant. Dieu s'adresse à Jésus, il dit « Bon, bah demain, prépare-toi, on lève le camp. » Non, il ne dit pas « demain », il dit « maintenant, maintenant, lève-toi, maintenant. » Dans le psaume 12, verset 5, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. C'est-à-dire que Dieu lui-même se prend la posture qu'il demande à Josué. Maintenant, parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Et c'est parce qu'il adopte cette posture-là vis-à-vis de ceux qu'il appelle, qu'il peut se permettre de dire à Josué, maintenant, toi aussi, lève-toi. Le modèle de Christ est là pour nous inciter et nous dire, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu fais, toi ? Maintenant, est-ce que toi aussi, tu te lèves ? Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant à jamais. Dès maintenant à jamais, psaume 115, 18. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, verset 67. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès demain et à jamais. Il n'y a personne qui se choque pas. Ah ben dites-moi. Je redis, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quand je prends ma voiture souvent et qu'on dit, ben voilà, je vais prier, Seigneur, garde-moi jusqu'à l'arrivée. Je ne lui dis pas, ben Seigneur, garde-moi demain quand je serai arrivé. Non, non, dès maintenant. Est-ce que le maintenant dans ma vie est un ordre que j'entends de la part de Dieu? Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. C'est un petit mot plein de sens. C'est dans l'immédiat. En fait, dans le texte hébraïque, maintenant ne figure pas. Ah ben alors, pourquoi on l'a mis? S'il ne figure pas, ça veut dire qu'on triche avec la parole de Dieu, qu'on y rajoute des choses. Non, c'est tout simplement parce que le verbe qui est là, « lève-toi », est dans une forme grammaticale qui est le « cal » en hébreu et qui est un présent impératif. Et c'est pour ça qu'on le traduit toujours par « maintenant », ce n'est pas « fais-le », ce serait bien, etc. Non, c'est « lève-toi maintenant ». Maintenant, lève-toi. C'est en fait un « maintenant » qui est lié à la forme grammaticale. Mais ce que j'aime bien en français, c'est quand on se lève, c'est « maintenant ». Il me dit, ouais, bon, il l'a dit 10 fois déjà, il va arrêter. Oui, mais si vous mettez ce maintenant en deux mots, main, tenant, maintenant. En français, ça a un autre sens que l'on peut y attribuer, c'est-à-dire que le lève-toi, et comme ma femme et moi, nous sommes un petit peu perclus de rhumatisme, de difficultés articulaires. Quand on s'assoit, souvent, et ça m'arrive à moi aussi, ma femme me tend la main que je prends et elle me lève, elle m'aide à me lever. C'est de la sollicitude, c'est aussi de l'amour. Et quand elle le fait pour que je puisse reprendre ma stature debout, me lever, me remettre en marche. Peut-être que toi, tu es dans un temps où tu es fatigué. Tu peux être découragé. Tu peux sentir que l'adversaire t'a mis à terre. Maintenant, Dieu t'aide à te lever et à te mettre debout. Et je vous assure que c'est la réalité de ce texte. Le lève-toi, il est dans un maintenant impératif. Ce n'est pas demain, ça sera bien que tu te lèves. Et puis, fais-le tout seul. Non, c'est maintenant. Ma main vient te tenir pour te lever et te soulager et te mettre debout. Même dans la situation de fatigue la plus extrême, même face aux difficultés individuelles et collectives, y compris, et je pense à des couples pastoraux qui pourraient être dans la salle, des églises et des communautés où on se dit « mais c'est compliqué, c'est difficile, on n'arrive pas à avancer ». Maintenant, la main de Christ vient te tenir pour te dire « lève-toi ». Lève-toi, mon enfant. Lève-toi, mon Église. Cette parole ce matin, « Église, est-ce que tu entends ? Lève-toi, mais je te tends ma main, dit Dieu, afin de te soulever, de t'aider à te mettre debout. Et peut-être que vous vivez des épreuves difficiles, des moments compliqués, et que s'installe en vous cette pensée et même cette croyance. Je ne pourrai plus me relever. » c'est impossible. Et Dieu te dit, ma main te tenant te permet de te lever. Appuie-toi sur moi. Parfois, quand ma femme me tend sa main, je me dis, oui, mais si je m'appuie trop, je vais la faire tomber, elle. On va être tous les deux par terre et on fait quoi après? Avec la main de Dieu, il n'y a pas de risque. Tu peux prendre la main de Dieu là où tu es et te lever. Christ est mort maintenant. Qu'est-ce que je fais de sa mort et de son rachat? Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et ce n'était pas aujourd'hui ou hier, c'était il y a 40 ans. Il se retrouve devant la terre promise. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recommence comme nos pères. Ouais, mais t'as vu les géants qu'il y a? T'as vu les difficultés auxquelles on va être confrontés? Tu vas voir les combats qu'on... Oh non, 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 c'est... 40 ans de plus dans le désert? Bah non, pas non plus, non. Oui, mais alors, et maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce salut? Christ m'a sauvé. Et je peux rester au pied de la croix, ne plus bouger, un peu comme les chrétiens de Thessalonique qui, le salut acquis, se sont mis à attendre le retour de Christ. Doctrinalement, ils étaient dans les clous, hein, de bons pentecôtistes. On attend le retour de Christ. Hein. Je dis ça parce que je pense, quand je dis une phrase comme ça, je pense à Laurent. Je ne peux pas m'empêcher. Parce que Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un pasteur avec lequel nous, le mari d'Elisabeth, et il était tellement rempli de cette certitude, et il en parlait, il le priait, du retour de Christ. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant le retour de Christ? On a une association familiale protestante, on peut organiser des journées jeux dans l'attente. Je ne sais pas, du Scrabble, belote, et puis on fait, en attendant, hein, comme les Thessaloniciens, où est-ce que cette attente-là, elle doit être remplie d'autre chose selon la pensée et la volonté de Dieu, à la fois pour vous et pour moi en tant qu'individu, mais aussi pour l'Église. De quoi est remplie cette attente? Christ m'a racheté pour que je me lève, pour que je me mette en marche. Je suis appelé à être un homme et une femme en marche. J'aime beaucoup cette statue de Rodin, l'homme qui marche. Il y a plein de statues où les éléments sont représentés, sont dans une posture immobile. Ce qui a révolutionné avec cette œuvre de Rodin, c'est le sentiment qu'on le voit en mouvement, en marche réellement, en déséquilibre. Et la foi, c'est une question de déséquilibre. C'est accepter, je dirais, la réalité de mon ancrage au sol et en même temps le déséquilibre de se mettre en mouvement. C'est ça, marcher. Vous avez un sketch de Raymond Devos qui en parle très très bien. Accepter de marcher, c'est accepter d'être en déséquilibre. C'est un acte de foi. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous marchez, eh bien, sans vous en rendre compte, vous faites un acte de foi. Lorsque votre pied qui est ancré dans le sol laisse l'autre jambe aller de l'avant, votre cerveau fait un acte de foi que cette jambe qui s'élance dans le vide va rencontrer le sol et que ça va tenir. Bien sûr, comme vous n'avez plus d'équilibre comme moi, parce qu'il me manque une oreille et le centre de l'équilibre, c'est devenu compliqué. Mais je le vis encore. Quand je lève ma jambe, je crois pertinemment que quand je vais être dans ce déséquilibre, je ne vais pas tomber. Est-ce que ma marche spirituelle est de cette même nature? Est-ce que j'accepte de me mettre en risque par la foi? Christ est mort, Moïse est mort, et maintenant, lève-toi, maintenant, parce que je vais te tenir quand tu vas te mettre en marche. Nous avons été ensevelis. Je me suis amusé à mettre des maintenant sur des versets qui ne contiennent pas. Je vais vous prendre un exemple. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. T'es d'accord, Ivan? Oui. Je m'adresse au dernier baptisé, parce que quand même, après, c'est une réalité qui est lointaine. Hein, donc, pour les autres, ils ont un peu oublié, mais pour toi, c'est neuf. Hein. Donc, nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions. Ah, encore, lève-toi. Nous marchions maintenant en nouveauté de vie. et non pas demain ou après-demain. Maintenant, je l'ai rajouté, mais c'est une évidence. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, maintenant, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a des maintenant qui sont devenus tellement, je dirais, présents, une évidence, qu'on oublie que c'est maintenant que nous vivons. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée maintenant dans notre chair mortelle. Le jour du salut, c'est maintenant. Quand il est demain, ça devient compliqué. La guérison de Dieu, intérieure ou physique, c'est maintenant. Même si Dieu nous fait attendre, mais c'est maintenant qu'on fait acte de foi. La sanctification, ça c'est demain. Oui, la sanctification c'est toujours demain. C'est un peu comme mon régime. Moi, ça fait à peu près 30 ans que j'ai un excellent régime. Demain. Bon, c'est pas très efficace, je vous l'accorde, mais c'est mon régime. Parfois, la sanctification chez les chrétiens, il y a même de nature. C'est la sanctification, ça commence demain. Mais la sanctification, c'est aujourd'hui que le Dieu la veut. Le service. Ah, le service. Nous, ce temps passé à table avec 6 jeunes chrétiens qui sont consacrés et un chrétien qui a un mariage vous dit comment vous avez vécu votre appel avec Dieu ? Parce que moi, je veux servir Dieu et je veux savoir quel est mon appel. Vous dites, je ne suis quand même pas venu là pour rien quand même. Bon, je célébrais le mariage, donc c'était un peu... mais là, c'était un moment, j'ai rarement vécu ça, dans un mariage au vin d'honneur, parler de l'appel de Dieu, et ensuite à table, et votre service à vous. C'est pour quand ? Posez-vous la question. Quand est-ce que je cherche ? Quel est le service que Dieu attend de moi ? C'est pas quel est le service que... l'Église attend de moi. C'est vraiment qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je disais à quelqu'un, j'ai tellement parlé du Seigneur ces derniers, je ne sais plus à qui j'en ai parlé, mais je disais, je crois que c'est à ce jeune Colombien, je disais, Dieu de toute éternité a pensé à toi. Et il t'a donné des dons naturels, des dons spirituels, il t'a donné une sensibilité. Ensuite, à ta naissance, la vie a conduit les choses de telle ou telle manière. Des circonstances ont pu altérer des dons que tu avais reçus et qui te font croire que tu n'es plus capable, que tu ne peux pas, etc. Mais néanmoins, Dieu a mis dans la personne que tu es tout ce qui est nécessaire pour l'appel auquel il te destine. Ce qui est vrai pour ce jeune homme, Edwin, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'il a mis en toi, qui est unique et dont le monde a besoin ? Qu'est-ce qu'il a mis en toi, qui est unique et dont l'Église a besoin ? Ton entourage, ta maison, ton conjoint, ton épouse ? Quel est ton appel et ton service ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je suis appelé maintenant ? Lève-toi et va au-delà. C'est ce que Dieu dit à Josué. Maintenant, lève-toi. Et dans le lève-toi, le verbe qui est utilisé, c'est « cum ». Ça vous dit quelque chose ? Talita cum. Une des rares paroles hébraïques qu'on retrouve dans la bouche de Jésus au moment où une jeune fille est malade. Et en fait, le cum, ici, il prend le sens de se lever, se dresser, s'élever. Et lorsqu'on est avec ce verbe-là, on n'est pas sur « lève-toi », « l'echlora » qu'on retrouve dans le verset concernant l'appel d'Abraham ou celui même qui est tout à fait similaire, l'appel de Jonas, où là, lève-toi vers toi-même. Alors, ça, à la rigueur, se lever pour soi ou vers soi, moi je trouve un des plus beaux textes d'appel qui soit, parce que la marche commence en soi, pas à l'extérieur. C'est pas le premier pied extérieur. La marche, elle commence en moi. Lève-toi vers toi-même et va vers. Ici, c'est pas l'Echlora, c'est Abar, se lever, se mettre debout. C'est le même verbe qu'on retrouve dans le livre de la Genèse quand l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde, lève-toi. Va au-delà de même de ce que tu vois. Et moi, je trouve que cette parole adressée à Josué, c'est une parole merveilleuse. Te contente pas de voir ce qu'il y a à tes pieds, ce qu'il y a dans les 22 kilomètres, qui est la limite, je crois, ou 24 kilomètres de l'horizon. Regarde au-delà, bien plus loin, à la fois dans ta vie en tant qu'individu, à la fois en tant que membre du peuple de Dieu pour ton service. Regarde bien plus loin que ce que tu peux imaginer humainement. Voilà ce que je vais donner au peuple. Et je trouve que lorsqu'il dit au verset 4, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au grand fleuve, le fleuve de... Josué, il était au bord du Jourdain, il dit, oh Seigneur, arrête, 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 moi, tout ce que je vois, c'est ce qu'il y a là. Ah non, moi je te parle de, regarde vos frontières qui iront du désert vers le Liban, vers la grande mer, jusqu'au soleil couchant. Et parfois, on est tellement timoré. On est tellement habité par nos limites que l'on considère que ce sont ces limites-là que l'on établit qui dictent ce que nous allons devenir. Si je savais ce que je peux devenir en Christ. Relisez le préambule de l'Épître aux Éphésiens qui dit « En lui, en lui, en lui, en lui, voici ce que vous avez !» Ah bon? Ah, moi, je ne savais pas que j'en avais autant. C'est un peu comme ceux qui découvrent qu'ils sont riches alors qu'ils s'imaginaient pauvres. C'est exactement la situation de certains chrétiens. Certains peuvent être tentés de s'arrêter là, juste à l'entrée du salut. Et puis ils sont fatigués, on dit on n'a plus de force, 40 années dans le désert, on est usé. Si vous saviez ce que j'ai vécu, quelles sont les expériences difficiles qui ont été les miennes, etc., etc. L'ennemi souhaite, même s'il nous veut nous limiter dans notre progression, il souhaite que nous restions en bordure des promesses de Dieu pour nos vies. Frères et sœurs, ne pas entrer de plein pied dans ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? En quoi le fait de croire Dieu, de prendre sa main maintenant, peut me faire rentrer dans des choses étonnantes? Josué, il pensait... Moi, je suis juste l'assistant de Moïse. Oh là, oh là. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'ai l'impression d'entendre Michel. Michel, il est rempli de modestie, mais c'est un des hommes les plus fidèles avec lequel j'ai vécu. Mais il a tendance à toujours dire, moi je suis un bon second. Hein? Ça devait être la parole de Josué. Mais en fait, ce n'est pas un bon second, c'est un bon serviteur, tout simplement, fidèle dans l'appel qu'il a reçu et capable de tenir dans le temps. Tous les 31 décembre... Il m'embrasse, on ne s'embrasse jamais. On se serre la main, mais et quand il m'embrasse le 31, on est quand même le plus vieux couple de l'Église apostolique. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que sa fidélité a fait que. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui dans ton appel et dans ton service? Lorsque Jésus, dans l'évangile de Marc, entre dans la maison d'une jeune fille, d'une famille dont la jeune fille est morte, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant et la saisit par la main et dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. C'est ce qu'il dit, c'est le verbe qu'il utilise, Kum, un forme grammaticale cal, c'est-à-dire maintenant, impératif, maintenant, tu te lèves. Il entra, pourquoi faites-vous du bruit, pourquoi pleurez-vous? Parfois, on a le sentiment que dans l'entourage des personnes qui sont en difficulté, en souffrance, on se lamente avec elles. Oh, elle était tellement vivante. Oh, elle nous faisait tellement bien, etc. Et puis la parole de Dieu est là, mais elle n'est pas morte. Elle dort. Et parfois, dans la vie des chrétiens et des croyants, ils sont en train de dormir. Ils ne sont pas morts. La vie est toujours là. Il suffit que Christ rencontre celui ou celle qui dort dans sa vie, dans son existence. Et c'est un cœur à cœur, c'est une rencontre du Christ ressuscité, du Christ vivant, qui fait que cette jeune fille qui dormait devient vivante. Prions pour que dans l'Église, ceux qui sont endormis se réveillent. Debout ! On a un chat, c'est pas le nôtre, c'est celui du voisin. Mais il y a des fois, à 3h, 4h du matin, il saute, il dort dans la salle à manger, sur une chaise, et puis à 4h du matin, il saute sur le lit, après il passe sur le ventre de Francine, et puis il est là en disant, bah, debout, c'est l'heure. Puis moi, je fais semblant de dormir. Est-ce que le Saint-Esprit, dans ta vie, maintenant, te dit debout, réveille-toi. Si tu savais ce que Dieu a en réserve pour toi, tu serais étonné. C'est un ordre qui retentit dans la vie de tous les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas, là, ici, du « lève-toi, lech lecha » qui s'adresse à Abraham ou à Jonas, mais de « koum » qui est un impératif de se mettre en mouvement. Et cet impératif, c'est parce que ce qui est vivant doit se mettre en route. Et nous sommes tous vivants. Il y a de la terre à conquérir, des victoires à remporter. Le peuple de Dieu est un peuple en marche, pas en suractivité, mais un peuple en marche. Pas dans le brassage d'air, mais un peuple en marche. Et il est à rentrer dans les plans préparés d'avance. C'est vrai de manière collective, mais aussi de manière individuelle. Lève-toi. L'ordre retentit dès la résurrection. Aux femmes qui vont au tombeau, à proximité du tombeau, elles disent, le Seigneur leur dit, les anges disent, allez avertir les autres disciples, c'est-à-dire, mettez-vous en marche, allez-y. Et cette semaine, on a eu une réunion de prière où on a relu cette pensée, il est vivant. Parce que Michel relisait les paroles du chant, il est vivant. En quoi cette parole a quelque chose de révolutionnaire? Ben, attendez, excuse-moi du peu. C'est Dieu qui vient, qui donne sa vie, qui meurt, et 3 jours après, il est vivant. L'histoire du christianisme aurait été totalement différente, une religion comme les autres, hein, s'il n'y avait pas eu la résurrection. Ce qui nous rend vivants, ce qui rend l'Église unique, c'est qu'elle est habitée par cet esprit de la résurrection. Il est vivant. Et Josué porte la responsabilité de faire entrer le peuple dans les promesses qui résultent du fait qu'il a été libéré de l'esclavage. Nous avons la responsabilité, et je le dis avec sérieux, de valoriser le salut que Christ nous a acquis. Nous pouvons rester endormis. Mais le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et il est dit que Dieu ordonna à Josué de passer. Lève-toi et traverse le Jourdain. Et en fait, le verbe utilisé, c'est passe, Abar. Passe, passe le Jourdain. Va de l'autre côté. Moi, j'aime bien cette notion de, une fois qu'on est libéré, il faut aller de l'avant, il faut passer le Jourdain. La terre promise, c'est de l'autre côté. Et vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a cette particularité que qui m'a toujours étonné, vous avez plusieurs tribus, notez quelque part, mais 2 tribus ennemies, qui décident de dire à Moïse, avant la conquête de la terre promise, écoute, nous on a regardé, avant la terre promise, toute cette région-là, waouh, c'est pas mal. Tu sais, on va négocier, nous, on n'a pas envie de rentrer dans la terre promise. On voudrait juste être dans cette région-là qui est en deçà du Jourdain. Et Moïse va les écouter, il va juste leur dire, oui, mais à ce moment-là, Dieu vous ordonne d'aller avec vos frères conquérir la terre promise. Je me suis toujours dit, il n'y a pas beaucoup d'explications qui sont données sur les conséquences de ce choix. Mais je lisais les travaux d'une chercheuse en droit social qui parlait de, sur une région, une cartographie, qu'est-ce qui a fait que des populations sont dans telle ou telle direction, et elle a fait tout un travail de recherche. Et c'est très intéressant de voir ce que sont les motivations qui nous font choisir tel ou tel chemin. Quelles sont les motivations qui nous font rentrer dans les promesses de Dieu? Et quelles sont les motivations qui nous font rester en retrait parce que la terre est tellement belle ici, waouh! Et le monde nous propose des choses tellement intéressantes! Est-ce que pour autant, ce sont des choix qui vont avoir des conséquences pour l'éternité? En parlant avec des jeunes, un des jeunes, il disait, je cherche quel est mon appel, et il disait, en ce moment, je ne sais pas si mon appel, j'ai une petite idée, par exemple, mon appel, je me demande si ce n'est pas de partir, c'est une tête beaucoup plus grosse que la mienne est mieux faite, et il disait, je me demande si finalement mon appel, ce n'est pas de me lancer dans la recherche. Et je me suis dit, tiens, c'est la première fois que quelqu'un évoque le fait qu'un appel de Dieu soit dans cette direction-là. Aucun jugement, on me dit, pourquoi pas, tout est possible. Mais la seule pensée que j'ai pu partager, j'ai dit, bah, pourquoi pas la recherche? Mais en quoi cette recherche-là aura-t-elle, en termes d'appel, un impact sur l'éternité des hommes et des femmes de ce monde et de ce temps et de ceux que tu côtoieras? Parce qu'en fait, ne nous y trompons pas, un appel vis-à-vis du royaume de Dieu n'a de sens que si cela impacte le monde dans lequel nous sommes par rapport au royaume de Dieu, ce qui est éternel. Alors, ici, il faut passer de l'autre côté. Les deux tribus ennemies, qui sont les deux tribus et demi, qui sont restées en deçà, ont été les premières victimes des attaques des adversaires d'Israël. D'ailleurs, comme ils étaient dans la... Oh, c'était très joli dans ce monde-là. Sauf que dès que l'ennemi s'est attaqué à Israël, qui a pris possession de son territoire et de sa terre, bah, ça a été les premiers attaqués, bien évidemment. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que chez les chrétiens, ce n'est pas la même chose? Rester en deçà du royaume de Dieu, est-ce que ce n'est pas se mettre en danger par rapport à ce que Dieu veut pour nos vies, pour l'Église? Alors, dans la version de Chouraki, il y a une manière de dire les choses que je trouve intéressante. Là où il est dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit, à Moshé. Or, la formule verbale qui est utilisée, c'est le cal, toujours, mais dans sa forme parfaite. Ça veut dire que ça exprime une action accomplie, terminée, instantanée et unique. Bon, là, j'en ai perdu quelques-uns. Je vous dis, je vous relis la traduction. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Alors que notre traduction, c'est je vous le donne. Mais je vous l'ai donné. C'est-à-dire que pour Dieu, l'action est au parfait et que c'est déjà établi, c'est déjà fait. Je vous l'ai donné. J'ai envie de dire que c'est une parole que Christ aurait pu prononcer au moment où il était sur la croix. Voilà, maintenant que je me suis donné pour vous et que je meurs, je vous ai donné tout ce dont vous aviez besoin. C'est pas je vous le donne. Et là, pour le peuple d'Israël, on est dans cette même configuration. Tout ce que vos pieds fouleront dans l'avenir, je vous l'ai déjà donné, c'est déjà acquis. Alors que nous, on a l'idée que, oui, donc il va falloir avancer, il va falloir se mouiller les pieds, un peu comme Pierre hier dans la mer. On va mouiller le pantalon, évidemment. Oh, c'est pas sympa. et puis après, il va falloir... Mais, attendez, je vous l'ai donné. C'est déjà acquis. Mon œuvre est accomplie. C'est cela la forme parfaite du kal. C'est pour ça que la traduction de Chouraki me plaît merveilleusement bien. Parce que souvent, on a le sentiment que, oui, Dieu nous fait des promesses. Mais des promesses, c'est des promesses. Hein? Ça veut dire que pour qu'elles se réalisent, il va falloir que je bosse, il va falloir que je travaille. Mais quand on lit ce verset-là, on dit, mais Dieu dit, mais je vous l'ai déjà donné. Vous n'avez pas encore fait le premier pas. Vous n'avez pas encore mouillé vos sandales dans l'eau du Jourdain. Mais c'est déjà à vous. Pour moi, c'est acquis. Et dans nos vies personnelles, parfois, on hésite à se mettre en route. On se dit, ah ouais, oh, ça va être dur, ça va être difficile. Et puis, les combats que je vais devoir... Mais en fait, Dieu t'a déjà donné. Dans le contrat du salut, il a dit, bah, voilà ce que tu as en toi, ton capital est là. Il y avait un récit qui m'avait été raconté lorsque j'étais au collège biblique, c'est un soldat noir américain qui était esclave et qui, au moment de la guerre de sécession, c'est un récit qu'on retrouve souvent aux États-Unis, avait eu cette promesse, si tu te bats pour l'armée du Nord, eh bien, à la fin de la guerre, tu seras affranchi et tu auras même une solde qui te sera donnée jusqu'à la fin de ta vie. Et puis, lui, bon, il avait entendu les choses, il s'était engagé parce qu'il voulait retrouver sa liberté et il s'est battu pendant, je crois, 2 ou 3 ans. Et puis, quand il y a eu la victoire, que l'armée du Nord a remporté la victoire sur le Sud, eh bien, il a été démobilisé et puis un homme l'a rencontré une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard, en train de faire la manche, parce qu'il n'avait pas trouvé de travail, malgré tout, la ségrégation était encore très présente, etc. Et cet homme-là a discuté avec cet ancien soldat qui s'était battu. Et lorsqu'il avait été démobilisé, on lui avait donné un bout de papier, comme il était illettré, il l'avait roulé très soigneusement, puis il l'a enfermé dans un étui de balle. Une balle, il avait mis, puis il portait autour de son cou, puis en discutant avec lui, l'homme qui était là, qui était chrétien, a dit, mais et vous n'avez rien reçu quand vous êtes parti, vous n'avez pas été bénéficiaire de... Non, 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 on ne m'a rien donné, on m'a juste donné un bout de papier. Il dit, je peux le lire? Et puis, bah, bien sûr. Et là, sur le papier, lettre du gouvernement pour cet homme-là, qui lui disait, bah, maintenant, du fait de vos... de votre combat pour la liberté, eh bien, non seulement vous êtes libre, totalement affranchi, mais vous toucherez chaque mois une solde jusqu'à la fin de votre vie pour service rendu à l'État. Et là, quand l'homme lui dit ça, l'autre dit, ah bon, j'ai le droit de recevoir cette solde-là tous les mois? Mais je l'ignorais, je ne le savais pas. Et ça me fait penser beaucoup à certains chrétiens qui ne prennent absolument pas conscience de ce qui est inclus dans le salut. C'est pas simplement me libérer de mon péché. C'est aussi que les richesses de Christ viennent jour après jour, mois après mois, être déposées dans ma vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous invite à relire cette introduction d'une manière christologique et messianique pour voir où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à mon entrée dans les promesses de Dieu. Seigneur, nous en sommes par rapport au salut, à la grâce que tu veux répandre dans nos vies, comme lorsque nous sommes devant un ordinateur et que nous n'exploitons que 5% de ce qui est dedans. J'ai l'impression, Seigneur, que nous sommes tout à fait comme cela face à ta grâce et à ton amour. Nous laissons parfois de telles limites pour que ce salut n'aille pas plus loin, davantage, ne nous fasse pas entrer plus avant sur le terrain du salut, sur la terre promises, sur les promesses qui sont à se réaliser. Nous voulons inviter l'Esprit, Seigneur, à parler à nos cœurs. Et qu'il nous donne le courage que nous puissions nous fortifier et être fermes par rapport à ce que tu es, à ce que tu fais. Je veux, Seigneur, entrer dans ton salut et dans la terre promise. Je veux que ton salut s'accomplisse. C'est une prière que tu peux faire dans ton cœur maintenant. Maintenant. Là aussi, maintenant. La main de Christ s'étend. Prends la tienne et te dis là, maintenant, lève-toi. Entre. Franchis ton Jourdain. Lève-toi, maintenant. Amen.